Madame, monsieur, chers collègues, chers amis, c'est un très grand honneur d'être invité sur Chaire d'État au Collège de France et de vous parler sur l'histoire du droit romain. Je veux tout d'abord remercier professeur Jean Scheid pour avoir proposé l'invitation à l'Assemblée du Collège. Et je voudrais aussi remercier mon ami Michel Bresson qui a traduit mes conférences. Mon intention aujourd'hui est de dégager un corps de loi qui n'a pas en quelque sorte d'existence, celui qui régissait les étrangers devant les cours de justice romaine, et plus particulièrement celui qui régissait les étrangers qui entraient en conflit avec des citoyens ou avec des étrangers d'une autre nationalité. Ce faisant, j'espère faire progresser quatre hypothèses de fond au-delà des limites du travail brut de récupération que je vais accomplir sur les pratiques juridiques. Ma première hypothèse est que la fracture entre une réalité sociale matérielle évidente et les capacités du langage juridique à décrire cette réalité engendra une réflexion dont la conséquence fut la création du corps de théorie sociale de très loin le plus sophistiqué qui est émergé dans l'Antiquité, et son étude ne devrait pas être laissée aux seuls juristes. Ma seconde hypothèse est que les configurations de métaphores, métonymies et analogies que l'on repère dans le langage juridique romain sont homéomorphiques, voire même en relation de synecdoque, avec les configurations de l'abstraction que l'on observe dans la production culturelle latine en général et jusque dans le dessin. Ces modèles peuvent être étudiés de façon à faire apparaître des caractéristiques distinctives de la pensée romaine qui seraient utiles aussi bien aux historiens romains qu'aux historiens des empires et de la théorie politique en général. Sur la base d'une telle interprétation, je soutiens le fait que la constitution de sujet d'empire en tant que sujet de droit est due dans une très large mesure aux opérations de droit civil qui préparèrent ainsi la voie pour une universalisation de la citoyenneté romaine sous Caracalla. L'histoire de l'élargissement de le droit romain à l'Empire ne commence pas avec la Constitutio Antoniniana ni avec l'adaptation qui s'ensuivit des ordres sociaux locaux aux normes romaines et des normes romaines aux pratiques locales. Le droit civil a été plutôt régulièrement et systématiquement étendu pour englober ceux qui étaient légalement étrangers, en même temps que des formes de choses et d'actions auxquelles les législatures romaines n'avaient pu penser, et les formes les plus fondamentales de controverses ainsi que la réflexion très historique du droit romain sur lui-même se sont développées pour rendre compte de cette extension. Ceci nous amène au quatrième et dernier argument que j'espère légitimer au cœur de ces prochaines conférences. L'histoire du droit civil ne peut pas être comprise correctement si on ne tient pas compte de son histoire en tant que le code de loi impérial sous au moins trois aspects. Indirectement dans son influence sur le développement de lois internationales déjà dans l'Antiquité, directement dans la formulation des relations économique et sociale parmi les dominés à l'intérieur de l'Empire, et enfin en naturalisant et légitimant les formes spécifiques de différenciation sociale et de domination interpersonnelle à l'intérieur du corps des citoyens. Permettez-moi de développer de manière sélective ces arguments avant de penser au cœur du sujet que je vous présente aujourd'hui. J'y reviendrai en conclusion. Quand je dis que le droit positif gouvernant les relations entre citoyens et étrangers n'existe pas, je l'entends dans un sens à la fois historique et dans un sens normatif et idéologique. Sur le plan historique, la majorité des textes juridiques que nous restent du monde romain furent choisis et édités par les érudits du VIe siècle pour une utilisation contemporaine, quelques 300 ans après l'univers. l'universalisation de la citoyenneté. À part les indices fournis par quelques titres d'œuvres cités exclusivement pour leur contenu de droit civil, le droit positif tel qu'il avait existé pour régir les relations entre citoyens et étrangers avait depuis longtemps perdu toute signification et fut rigoureusement exclu des codifications de l'Antiquité tardive. Dans l'idéologie des avocats romains, le recours au droit civil ne devait, comme les législateurs romains le réclamaient à l'occasion, être accessible qu'aux seuls citoyens romains. Les moments significatifs de cette histoire incluent les lois de 95 avant Jésus-Christ, le droit dit Lex Licinia Mucia, et un autre passé par Auguste, appelé par les spécialistes, ancien médecin, Lex Julia Judiciaria. Ces lois sont citées selon leur source sur la handout, respectivement au passage 6D et 8. Le principe en question reçut sa formulation décisive au 2e siècle après Jésus-Christ dans les instituts de Gaius, dans une expression concise qui témoigne d'une interprétation commune, passage 1. Un droit civil est un corps de loi qu'une communauté de citoyens établit pour et sur elle-même. Comme corollaire, il semblerait que toute communauté politique digne de ce nom aurait un corps de loi semblable. Ce principe de droit et de théorie juridique a un corollaire important dans la place fondamentale accordée au contractualisme dans la pensée politique romaine. Selon cette tradition, une collectivité politique, un populus, est formée par l'engagement consensuel de ses membres dans un ordre normatif particulier. D'après Cicéron, passage 2, par exemple, un populus n'était pas n'importe quel groupe d'individus rassemblés pour un motif quelconque, mais un groupe uni iuris consensu par un intérêt commun et un engagement partagé dans un ordre normatif particulier. Alternativement, dans une formulation largement citée par les juristes médiévaux, un populus est une collectivité nombreuse réunie pour vivre selon le droit, qui, si elle ne vit plus selon le droit, n'est plus un populus. Dans la 4e conférence, je discuterai assez longuement du monde dans lequel cette formulation avait cours et quelle culture politique elle servait à décrire. Le caractère distinctif et envahissant de la place accordée par les Romains au contractualisme est visible avant tout dans l'utilisation courante de civitas, citoyenneté, comme métonymie à la fois de la cité et de la communauté politique. Le terme correspondant en grec, politeia, ne donne pas vie à un tel essai de concept. La capacité de civitas à servir de métonymie pour la communauté politique est fondée sur l'assumption que c'est la possession individuelle de la citoyenneté et l'engagement individuel à remplir les devoirs de cette citoyenneté qui lie une personne à la communauté. L'échec du mot politeia à remplir la même fonction suggère que la définition statutaire de la citoyenneté et de ses devoirs était considérée par les Grecs comme épiphénoménale, comparée aux autres valeurs essentielles qui unissaient la communauté, c'est-à-dire celle de lien familial ou, pour ainsi dire, de la race. D'ailleurs, la mauvaise volonté des spécialistes du droit civil à enquêter sur son passé impérial est, au minimum, un héritage de cette tradition, selon laquelle les sujets du droit civil sont conçus pour être créés en tant que tels de leur propre volonté. Ce passé impérial est de la même manière occulté par le courant des historiens modernes qui trouvent son écho chez les rhéteurs antiques, pour qui la distribution de la citoyenneté romaine était une indication importante de la bénévolence romaine. L'histoire de cette distribution peut ainsi être racontée comme un récit d'émancipation, comme peut-être son histoire sur l'Empire. Son passé républicain est une autre histoire. À cette époque, des formes déficientes de citoyenneté étaient distribuées aux populations conquises dans le but de les intégrer à l'intérieur des structures de l'État romain. De cette manière, ils étaient identifiable et gouvernable. Et dans ce monde, le droit civil était un instrument de domination parmi d'autres. Pour ce qui est de l'histoire romaine, l'importance du problème qui m'occupe ici a été occultée par l'existence des règles de juridiction basées sur la géographie politique. En termes simples, ces règles commandaient que la structure juridique qui gouvernait les relations économiques et sociales fût déterminée par le lieu géographique dans lequel une transaction donnée était menée. Rome devait donner autorité à de tels systèmes juridiques lors de l'organisation formelle d'une province. Les commissions qui supervisaient ce processus établissaient sans aucun doute des frontières juridictionnelles en même temps qu'elles traçaient des frontières pour des districts d'assises, de collecte des impôts et des myriades d'autres propos. De ce processus, ou plutôt étant donné le système juridique établi en conséquence, nous n'avons qu'une seule description écrite par Cicéron en 70 avant Jésus-Christ, quand il poursuivait Gaius Verres, le proconsul corrompu de Sicile, qui l'avait immédiatement précédé. Passage 3, mais je ne lis pas le passage à haute voix. Sur l'analyse de Cicéron, je ferai seulement trois observations étroitement liées entre elles. La première est que le paysage juridique de la Sicile romaine est une mosaïque de juridictions, un système différent de droit civil ayant cours dans chacune d'entre elles, c'est-à-dire que, selon la vision romaine, une communauté politique génère un code de loi régissant les relations de ses propres membres, dont l'appartenance est régulée et tracée par l'État. Le second est que les sujets de l'Empire ont une citoyenneté spécifique dans l'État, mais également une existence d'agents juridiques détenteurs de la résidence dans une province romaine spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont siciliens. Le caractère arbitraire de ce nouvel axe d'identité est masqué pour les modernes dans le cas de la Sicile par le fait que c'est une île, mais dans l'Antiquité, la Sicile est divisée politiquement, linguistiquement, ethniquement et religieusement. Que les Romains aient réussi à forger de nouvelles institutions pour lesquelles canaliser les énergies politiques et les aspirations patriotiques en direction des provinces peut être compté au nombre des réalisations les plus remarquables de la technique sociale et démographique de l'Antiquité. C'était un processus commandé en partie par le besoin d'instituer des cadres procéduraux et doctrinaux pour l'action économique et sociale au lendemain d'une annexation. La troisième observation est une conséquence directe de la seconde et consiste simplement dans le fait que la Lex Rupilia, la loi Rupilia, était spécifique de la Sicile. Il en était nécessairement ainsi, car elle a incorporé et confirmé des codes de loi et des règlements gouvernementaux antérieurs, incluant le système de taxation sur le grain établi en son royaume par le roi de Syracuse du IIIe siècle, Hieron. Il peut aussi y avoir à cela d'autres raisons que nous ne pouvons plus détecter, incluant des préoccupations de juridiction. Mais cette véritable continuité et cette particularité régionale qui était sans aucun doute utile pour maintenir l'ordre social pendant et après l'annexion, aurait mis des obstacles substantiels en travers des progrès de l'homogénéisation juridique et administrative à travers l'Empire, une forme différente, mais non moins désirable, d'efficacité. Au moment même où les Romains fixaient les limites des villages, cités et districts, ils classifiaient aussi les groupes de population en relation l'un avec l'autre et avec la métropole. Et les historiens de l'Antiquité ont consacré beaucoup d'énergie à la restitution de tels systèmes de classification. Mais aussi bien pour les règles de juridiction que pour le statut de droit public des cités, le cadre normatif est une chimère, Car le fait est que les Romains donnaient aussi une reconnaissance normative à la nécessité où se trouvaient les officiers romains de résoudre les conflits entre leurs sujets, même en dehors du cadre régulier du circuit judiciaire. En se focalisant ainsi sur le statut des cités, et ensuite en prenant le statut des cités comme un index de la condition légale de leurs résidents, les historiens ont systématiquement méconnu le défi principal du gouvernement romain, maintenir l'ordre parmi les groupes de population qui étaient toujours et partout juridiquement, ethniquement et linguistiquement hétérogènes. Gouverner des telles populations était, comme je l'ai dit, le principal défi du gouvernement et découvrir les moyens par lesquels ce défi fut relevé est l'un des grands problèmes non résolus de l'histoire romaine. Si nous écartons la disparition du droit positif, nous ne sommes pas totalement ignorants en ce qui concerne les mécanismes disponibles dans la pratique juridique romaine par lesquels les étrangers pouvaient être inclus dans le champ de la procédure civile et formulaire. Bien au contraire, je soutiendrai que les mécanismes utilisés par les personnes, choses et actions étrangères étaient exactement ceux que l'on employait ailleurs dans le droit romain, la fois explicitement pour élargir la portée de la loi et rétroactivement dans la littérature jurisprudentielle pour résoudre les conflits entre les lois. Ces opérations incluent l'analogie, l'impératif contrefactuel, la fiction et la substitution. Ces opérations, nous pourrions les étudier séparément par genre distingué formellement, et j'ai fait la liste dans le handout d'un certain nombre d'exemples marquants tirés de la législation romaine, sections 4, 5 et 6. Je ne souhaite pas discuter de ces exemples en détail. Je les donne simplement pour illustrer les débuts de l'importance de telles opérations dans la législation effective, à la fois pour en donner la preuve et comme arrière-plan, en quelque sorte, au fait que, dans la littérature jurisprudentielle, on est largement fait appel à de telles opérations dans la discussion juridique. C'est-à-dire que, selon moi, les juristes du Haut Empire employèrent eux-mêmes les fictions et les substitutions et identifièrent régulièrement l'opération de fiction et de substitution derrière d'autres manœuvres parce qu'elles étaient en fait largement utilisées dans le langage et l'opération de droit écrit. Je viendrai dans un moment au travail de fiction dans la littérature jurisprudentielle. Pour l'instant, permettez-moi de faire trois remarques. En premier lieu, bien que pour un cas donné, dans le contexte immédiat de la composition d'un texte, il soit bien possible que l'on ait largement su qui ou ce qui était inclus dans une substitution donnée. Le langage de la loi écrite le met vraiment au clair. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Les Romains, un siècle après, ne le savaient pas. Quelle personne et quelles communautés qui ne furent jamais des colonnes ou des colonies ont été traitées comme si elles étaient dans les opérations de la Lex Agraria, passage 6b et 6c. En second lieu, les différences formelles mises de côté, les opérations ont des effets de deux sortes qui devraient paraître proches. La première est une opération de transposition, qui agit essentiellement sur des personnes, mais aussi de choses et d'actions que l'on transpose d'un domaine, celui d'un quelconque code de loi étranger, vers un autre, celui de Rome. La seconde crée des faits juridiques à partir de faits sociaux. Les substitutions effectuées par la Lex Agraria que je viens juste de discuter sont des exemples de la première sorte. La loi sur les pouvoirs de Vespasien, passage 5H et 5I, est un exemple de la seconde. Elles établissent pour l'avenir que les actions prises par l'empereur seront rétroactivement comprises comme s'étant produites autrement qu'elles ne l'ont fait, comme s'étant produites conformément à des procédures selon lesquelles les pouvoirs souverains furent autrefois légitimement exercés. Comme pour d'autres fictions, la priorité d'un principe est respectée et reçoit une formulation formelle, même si elle est effectivement subvertie. En un sens banal, mais non trivial, on pourrait dire que la loi aide à faire exister ce qu'elle interdit. Ma troisième observation générale est la suivante. Les juristes tendent à subsumer toutes ces opérations sous le concept de fiction. En essayant de clarifier pour son audience les dangers de la loi dite Rubria, par exemple, passage 4.1, Cicéron s'affronte au langage légal qui ordonnait le vote d'une seconde loi immédiatement après le passage de la première. De plus, la première loi déclarait, par le moyen d'un subjonctif d'exhortation, que les officiels créés selon ces clauses possédèrent la légitimité conférée par la seconde loi sans se préoccuper de savoir si elle passerait ou non. Cicéron explique cette chicanerie légale en la redécrivant comme apparent par l'usage de la fiction. Ils auront le même statut légal sans une loi curiate que celui qu'ils auraient eu s'ils avaient été créés par le peuple selon une procédure stricte. Bien que la loi moderne, en particulier la common law moderne, s'écarte de l'utilisation de la fiction parce qu'ils la considèrent comme étant en quelque sorte d'inspiration radicale. Si la fiction et des opérations analogues furent utilisées de manière si répandue à Rome, c'est parce qu'elles étaient alors comprises selon une perspective conservatrice. Permettez-moi d'expliquer en quel sens cela correspondait à la réalité et ensuite d'en donner un exemple. Selon le point de vue des juristes, les deux usages les plus importants de la fiction et de la substitution furent d'abord éventuellement d'élargir la portée d'une loi et ensuite de modifier le champ de quelques cadres légaux devenus caducs. Dans les deux cas, une telle opération permettait le maintien de la continuité et donc de l'observance de cette ancienne loi ou de ce cadre juridique. La fiction qu'un étranger était en fait un citoyen, ce que Gaius appelait la fictio civitatis, qui fut adoptée dans le but de replacer un cas donné dans un cadre légal de droit civil, a été donc comprise comme allant à le sens du respect du principe que le droit civil ne fut pas utilisable seulement pour le citoyen, plutôt que dans le sens de la subversion de ce même principe. Dans l'esprit des juristes, les fictions qui reposaient derrière les formules prétoriennes révisant ou remplaçant l'ancienne loi statutaire étaient de plus grand intérêt car ils en reconnaissaient le potentiel révolutionnaire. Ces cas possèdent une résonance structurelle avec ce que les juristes modernes appellent les conflits de loi, comme cela arrive lorsque deux sources de loi opèrent dans la même juridiction, ou comme plus communément dans le monde moderne, lorsqu'une dispute privée peut être traitée selon un certain nombre de cadres légaux, chacun dépendant d'une autorité nationale différente. En masquant la révision ou le remplacement, la fiction en de tels cas tendait à préserver la légitimité des sources variées de droit opérationnel à Rome dans la période classique. Et naturellement, ce ne sont pas des explications exclusives l'une de l'autre en ce qui concerne le travail idéologique effectué par n'importe quelle opération. Les juristes romains avaient bien entendu leur propre langage lorsqu'il s'agissait de décrire les pouvoirs de ces déplacements formels dans la discussion et l'interprétation, ainsi que la contrainte qui pesait sur ceci. Pour reprendre le propos de Julien, juriste de la première moitié du second siècle après Jésus-Christ, les changements apportés au cadre ou aux structures taxonomiques des législations précédentes furent effectués aut interpretatione aut constitutione, c'est-à-dire soit par interprétation, soit par acte législatif. Et une fois qu'une loi a ouvert le chemin, le juriste peut s'avancer ad similia, vers des problèmes similaires. Dans tous les cas, pour reprendre l'expression d'Ulpian, il était du devoir du juriste de structurer une interprétation qui corresponde aux mots propres des lois antérieures. Quant au large fossé non reconnu qui sépare la formulation d'une législation et les situations qu'elle était censée traiter, j'y reviendrai dans la conclusion. Permettez-moi maintenant de fournir deux exemples de conservatisme dans des fictions juridiques romaines. En dehors des problèmes de statut des personnes, un exemple se présenta dans le droit civil concernant le transfert de propriété. Selon le droit civil, les héritiers d'un Romain mâle étaient à strictement parler ceux de ses descendants qui, du fait de sa mort, devenaient des acteurs juridiques à titre complet. En termes romains, il s'émancipait de son pouvoir et devenait sui juris. Ces individus étaient liés à leur testature par agnatio. En a strictement parlé, ces relations d'agnatio se transmettaient de l'ancêtre commun jusqu'au descendant mâle, selon ce que nous pourrions appeler la ligne agnatique. Les posthumi, les descendants nés après la mort du testateur, n'avaient de facto jamais été sous son autorité et, selon le droit civil, ne pouvaient pas hériter de la propriété de leur père ou grand-père en tant que sui herides, en tant que leur successeur. On peut imaginer une variété de moyens pour remédier à cette situation. La solution préconisée à Rome est typique à la fois pour son conservatisme, mais aussi pour l'importance accordée par ces différents agents au problème de légitimité parmi les sources de loi. C'est pourquoi cette injustice de droit civil, que les posthumes ne puissent être héritiers, était corrigée par l'édit de Pretur, ainsi que Gaius le précise dans ses Instituts, passage 7. Ainsi, il convoque à la succession tous les enfants qui ont un défaut de statut, proinde axi, exactement comme s'ils avaient été dans la puissance de leur père au moment de sa mort, qu'ils restent ou que, sui herides, les personnes qui étaient effectivement dans la puissance du père soient convoquées avec eux. En un autre endroit, Gaius décrit le travail de cette fiction avec un langage qui reconnaît à la fois le travail de l'analogie dans son apparition, mais aussi l'incapacité de la terminologie existante et de structures taxonomiques à recevoir le monde créé par elle. Les posthumi étaient admis à l'héritage, selon Gaius, par quasi agnatione et eo modo jura suorum nanciscuntur, par une sorte d'agnation, et de cette manière ont donné naissance à leurs droits comme des quasi-héritiers. Ma seconde illustration est d'une pertinence thématique directe. Elle concerne la juridiction. À la fin du premier siècle de notre ère, en conséquence d'une décision prise à Rome, les cités d'Espagne furent incorporées en tant que villes romaines. Et une charte standard fut écrite pour guider leur gouvernance autonome. Dans un chapitre de la fin de ces documents, des règles sont données pour mettre en forme l'administration de la justice. Passage 8. Je discuterai ce texte plus loin dans ma seconde conférence. Aujourd'hui, j'attire votre attention seulement sur le fait que le texte cite explicitement la Lex Julia Judiciaria. En réalité, il exprime sa soumission à ses principes. La justice romaine est le mieux administrée par un prêteur romain jugeant un cas entre des citoyens romains à Rome. Et la Lex Flavia ne subvertit ni ne révise ce texte antérieur. Elle préconise seulement que le droit soit administré en Espagne exactement comme si les plaignants étaient des citoyens romains défendant leur cause devant le prêteur romain dans la cité de Rome. Dans un tel climat légal, l'extension systématique des droits et des actions de droit civil aux étrangers aurait bien pu être ressentie comme trop radicale. Et de fait, aucun texte soutenant ouvertement un tel programme n'est parvenu jusqu'à nous. Et même, l'extension de droit de vote demeura un sujet de controverse encore pendant une bonne partie du premier siècle de notre ère. Mais les droits et les actions de droit civil furent, de fait, étendus à une grande échelle. Et cette histoire, selon moi, a contribué à rendre l'extension universelle de la citoyenneté concevable et finalement possible. Cela résulta de deux causes. D'abord, pour de multiples raisons, la pratique romaine qui consistait à juger des litiges dans la province en était depuis longtemps arrivé à suivre le principe souligné par Julien dans le 84e livre de son Digeste, dans lequel il avait probablement affaire avec les tentatives des citoyens de municipalités d'utiliser les cours de justice romaine pour échapper aux liturgies locales. En ce qui concerne le cas où nous ne suivons pas la loi écrite, la pratique établie par les coutumes et l'usage devrait être préservée. Et si, pour une raison ou pour une autre, cette pratique se révèle insuffisante, alors on doit se conformer à ce qui montre le plus d'analogie avec elle ou en est la conséquence. Si même cela est obscur, alors le droit observé par la cité de Rome devrait être appliqué. Hélas, l'extrait tel qu'il a été préservé jusqu'à nous ne fournit aucune explication des raisons pour lesquelles le magistrat romain pourrait ne pas suivre la loi locale écrite. Sans s'en inquiéter, la loi locale étant en échec, Julien fournit une suite des sources normatives alternatives qu'un magistrat pourrait consulter pour former sa décision. En dernier recours, la solution est la loi de la cité de Rome. Je soupçonne que les magistrats romains, éduqués dans la loi et la culture romaine, et étrangers aux cultures locales qu'ils gouvernaient, avaient dû rapidement donner la préférence aux familiers plutôt qu'à l'étranger. Sur le plan formel, j'ai des fortes présomptions que cette application de droit romain intervint à grand renfort de transposition, quelle que soit l'opération qui les réfia dans un cas donné, analogie, fiction, substitution ou une autre. L'itération de ces opérations contribua à son retour à une seconde révolution. Car tandis que la nature fictionnelle des fictions légales était parfaitement comprise dans l'Antiquité, pardonnez-moi cette tautologie, l'habitude d'interpréter le monde autrement qu'il n'était finit par porter à l'existence une nouvelle réalité sociale. Cela se produisit en premier dans le cadre de perception des Romains eux-mêmes, qui accomplirent progressivement ce que les linguistiques cognitivistes appelleraient un engagement ontologique dans le monde fictionnel fabriqué par le langage de leurs doigts, et créèrent ainsi des réalités nouvelles à partir des réalités fictionnelles. Je souhaite maintenant discuter en détail deux exemples de cette apparition de fiction en droit romain, pour illustrer les manières sophistiquées avec lesquelles on attribuait de façon régulière et systématique de nouvelles formes imaginaires à des distinctions apparemment rigides dans le statut juridique d'une personne. Si l'on exclut le fait que consistait à donner la citoyenneté à des étrangers nés libres, il y avait deux circonstances banales dans lesquelles des personnes passaient dans et hors du corps de citoyens romains. Les esclaves libérés de façon appropriée par des propriétaires citoyens romains devenaient eux-mêmes citoyens, et les citoyens romains perdaient leur citoyenneté quand ils étaient prisonniers de guerre. Les complications qui s'élevaient à l'issue de ces transformations réclamaient des solutions juridiques complexes. Et, à mon sens, ces solutions illustrent l'éventail des solutions disponibles dans le droit romain qui permettaient de négocier des passages à travers les distinctions de statut. Rome était une société esclavagiste, mais sous beaucoup d'aspects, d'une espèce particulière. Entre autres particularités, l'affranchissement y était extrêmement commun et les libertés, les affranchis, qui avaient été affranchis par l'une des diverses procédures formelles possibles, recevaient la citoyenneté romaine. Le droit citoyen dépendant, cependant, était limité sous différents aspects. Le plus important pour mon propos ici est qu'ils restaient redevables de différentes manières à leur ancien propriétaire, maintenant appelé patron. Ils devaient entre autres l'obsequium, le respect, operae, les travaux, ce qui signifie des travaux réguliers ou périodiques, et leur économie. Quand les affranchis ne pouvaient avoir d'héritiers, ils devaient laisser leurs biens à leur patron manumissionis iure, selon le droit des affranchissements. Les droits patronaux étaient passés selon la ligne agnatique, mais les devoirs de l'affranchi ne passaient pas à ses descendants. Les esclaves libérés de façon informelle ne recevaient pas la citoyenneté ni aucun droit civique. En réalité, pour le droit civil, de tels affranchis restaient esclaves. Mais en un geste caractéristique du rôle de la loi prétorienne pour aider, enrichir et corriger le droit civil est caractéristique aussi de la considération que se montraient respectivement les différentes sources de loi, il devint régulier à la fin de la République pour les hommes qui avaient été libérés par un affranchissement informel d'être protégés dans un cadre de liberté avec l'aide du prêteur. L'empereur Auguste semble avoir trouvé trop élevé le taux des affranchissements à Rome, ou plutôt, il semble avoir trouvé qu'un pourcentage trop important de la population libre était d'extraction servile. Et son règne vit le passage de deux statuts régulant l'affranchissement, dont le plus important, la Lex Aelia Sentia de 4 après Jésus-Christ, imposa à l'affranchissement des restrictions substantielles de nombreuses manières. Mais son règne, celui de son fils adoptif Tibère, vit aussi la formalisation de la protection que le prêteur avait précédemment étendue sur une base informelle aux esclaves affranchis en dehors des procédures officielles. Car une lex junia préconisait que dorénavant les esclaves affranchis de manière informelle, à l'exception de ceux qui avaient commis des crimes violents, devraient devenir latin. Qu'est-ce que cela signifie donc et quelles conséquences cela avait-il? Dans ce contexte, latin était le nom de statut juridique donné à une confédération de cités situées autour de Rome et unies par des liens ethniques et linguistiques. La région était le Latium, leur langue était le latin, avec lesquels Rome entretenait une alliance et que Rome finit par mettre à sa botte à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Après cette date, il fut interdit aux citoyens de n'importe laquelle de ces cités d'entretenir certains types de liens sociaux et commerciaux avec des citoyens de n'importe quel autre, mais ils avaient la permission de forger ces liens avec des Romains. En conséquence, il entrait dans une relation particulière avec l'État romain, et leur statut finit par être considéré comme intermédiaire entre celui des citoyens et celui des étrangers. En fait, il ne fut clair que le composé de droits et d'obligations créés par le foedus Cassianum était réellement un statut et non une agglomération purement contingente, que lorsque les Romains commencèrent à assigner le dit jus latinum à des gens qui n'avaient jamais été latins, ni ethniquement, ni juridiquement. C'est-à-dire que le terme latin avait eu autrefois une référence dans le statut ontologique était antérieur à l'accord de jus latinum, mais l'opération de la loi fit basculer ce terme d'un usage réaliste à un usage nominaliste, même lorsqu'elle faisait créer des latins par les actions du gouvernement. Bien que le texte de la Lex Iunia ne soit pas parvenu jusqu'à nous, son analyse par Gaius révèle qu'elle a été opérée par une double fiction. La première opéra de façon à rendre effectif le changement en statut. Passage 9. Plus tard, par l'effet de la loi Iunia, tout ce que le prêteur maintenait en liberté devinrent libres et furent appelés latins juniens. Latins parce que la loi a voulu qu'ils fussent libres comme s'ils avaient été des citoyens romains ingénus qui, émanés de Rome dans les colonies latines, devinrent des colons latins. Juniens parce que la loi Junia les avait rendus libres bien qu'ils ne fussent pas citoyens romains. L'auteur de la Lex Iunia semble ainsi avoir hésité à amender la doctrine de le droit civil sur l'enfranchissement. Il se peut qu'il ait aussi reculé à corriger la Lex Aelia Sentia si, en fait, la Lex Iunia a été faite après cette loi. C'est-à-dire que la Lex Iunia n'ouvrait pas une nouvelle possibilité pour passer d'enfranchissement à l'accès de la citoyenneté. La loi attribuait plutôt aux esclaves affranchis de manière informelle un nouveau passé. Ils étaient ingénus, nés libres, et ils avaient volontairement rendu leur citoyenneté pour entrer dans une colonie latine. La légitimité du système juridique semble avoir coupé corps à toute préoccupation au sujet des conséquences idéologiques que pouvait avoir le fait de redécrire ainsi la vie précédente des esclaves. Par-delà, l'opération produite par cette fiction demeure un problème. Préalablement, la propriété des esclaves enfranchis de manière informelle allait à leur patron peculiore, par la loi de peculium. Un peculium était le bien personnel d'un esclave qui en avait la jouissance, mais pas la propriété. Le même terme désignait le bien des enfants tant qu'ils restaient au pouvoir de leur père. Le cadre de liberté au moyen duquel le prêteur protégeait de tels affranchis permettait évidemment la description et le contrôle de leurs biens selon la loi du code civil, selon lequel ces affranchis étaient en fait encore esclaves. Et ainsi, les propriétaires qui affranchissaient de manière informelle n'avait pas à renoncer à la compensation matérielle qui était à la disposition de ceux qui affranchissaient selon les normes. Mais les latins juniens n'étaient pas supposés d'être d'anciens esclaves, ni avoir jamais été esclaves. Comme Gaius en fait la remarque, l'auteur de la loi avait envisagé cette difficulté. Passage 10. Il entendit spécifier que le bien parviendrait aux affranchisseurs comme si le droit n'avait pas été promulgué. Ainsi, c'est par une sorte de modalité de droit de Bécoul que le bien de l'État sont, par cette loi, dévolus aux affranchisseurs. Voilà donc la deuxième fiction. De façon à créer une obligation exactement parallèle à celle qui a été créée par le jus peculium, La lex junia comporte l'exigence que l'on se conduise dans l'un de ces aspects cruciaux comme si elle n'était pas été passée. L'affection de la loi est celle de sa propre non-existence. Gaius hésite à appeler l'obligation qui en résulte une apparition de jus peculii. Elle intervient plutôt comme iure quodam modo peculii, en quelque sorte selon la loi de peculium. À propos des prisonniers. À propos des prisonniers de guerre, je peux être plus bref. Par le fait d'une ancienne tradition, les citoyens romains prisonniers de guerre perdaient leur statut de citoyen. S'ils retournaient sur le territoire romain, ils pouvaient retrouver leur citoyenneté par le droit de postluminium. Mais la perte de la citoyenneté conservait le statut de droit civil de leur testament, de leur propriété et leur héritier en suspens, car les non-citoyens ne pouvaient pas écrire un testament valide. Cette situation fut remédiée par une lex Cornelia de la fin de la République, peut-être aux environs de 80 avant Jésus-Christ. Cette loi établissait que les dispositions testamentaires de prisonniers de guerre seraient traitées per inde adquisi, exactement comme s'ils étaient morts dans la cité. Propter quam fictionem, à cause de cette fiction, on considérait tous les actes de droit civil concernant les testaments comme susceptibles de s'appliquer au testament de prisonniers de guerre. Dans le cas de la lex Cornelia, donc, des non-citoyens vivants sont imaginés comme citoyens, mais morts. Naturellement, tout ce qui mourait en campagne n'était pas sui iuris, acteurs légaux indépendants. Certains étaient des fils dans la puissance paternelle, des jeunes hommes qui restaient sous le contrôle de leur père, qui en conséquence n'avaient aucun droit de propriété, mais qui, comme des esclaves, avaient un peculium, une possession qu'ils contrôlaient. Le juriste Paul, qui écrivait dans la première décade du IIIe siècle après Jésus-Christ, imagina une situation complexe concernant justement une telle file dans les puissances paternelles qui laissait un codicille derrière lui avec une fidécomie, demandant à son père de donner les économies de sa solde militaire, son peculium castrense, à un certain Titus. Passage 11. Paul se demande si le père peut déduire de ces sommes la carte facilienne, une lex facilia de 40 avant Jésus-Christ imposée aux testateurs de laisser au moins une carte de leur avoir à leurs héritiers. Et cette loi fut étendue aux fidécomis au second siècle. Selon Paul, la réponse est simple. Dans la situation hypothétique, il n'y a pas d'héritage. La propriété est un peculium. Ce qui signifie que le fil, étant un fil dans la puissance paternelle, n'avait pas de droit de propriété sur ses possessions et donc ne pouvait pas en disposer. Mais Paul ne se satisfait pas de cette réponse. À la manière dont il voit les choses, si le fil avait institué un héritier en dehors de sa famille, l'acceptation par cet héritier nominal aurait suffi à créer un droit d'héritage. Dans ces conditions, son père aurait certainement pu retenir la carte facilienne, mais par la même occasion, le souhait du fil que sa possession passait au Titus aurait été respecté. Peu importe, dit Paul, que la lex falsidia réglement ici les dernières volontés de quelqu'un qui est mort comme prisonnier de guerre, car la fiction de la lex Cornelia créée à la fois un héritage et un héritier. Cela posé, comment justifier que nous puissions comprendre que la situation créait une obligation au père? C'est-à-dire, comment pourrions-nous interpréter la situation? Comment pourrait-elle être redécrite en utilisant les opérations de droit et de langage juridique de façon à permettre au fil de tester et d'attendre du père qu'il respecte le testament? Paul continue. Mais j'ai dit aussi que je ne doutais pas que le bénéfice de la lex facilia puisse être conservé si le père est requis de transférer les biens comme si c'était ceux d'une pater familias, et que, étant institué héritier et refusant d'accepter l'héritage en vertu du testament, il puisse être poursuivi au nom des légitaires, conformément à l'édit. La réponse de Paul consiste à mener la fiction de l'émancipation du fils jusqu'à sa conclusion naturelle. Si l'on imagine que le fils est sui juris et que le père est le bénéficiaire de son fideicommissum, alors le père doit absolument être imaginé comme son héritier, véritablement, très simplement, comme son fils. L'obligation qui pèse sur le père d'honorer le fideicommissum de son fils est ainsi interprétée par Paul comme occasionnée par la fiction de la lex Cornelia et non comme une conséquence du légalisme particulier de cette famille particulière. Le pouvoir que Paul confère à la fiction est remarquable. Le désir de respecter ce qu'il nomme « legis beneficium », l'esprit de bienfaisance de la loi, permet à la fiction de prendre la main sur le droit civil par deux fois. Une première fois dans la mesure où le fils dans la puissance paternelle était mort en étranger, une seconde fois car, même s'il était mort dans la cité, en possession de sa citoyenneté, il n'avait aucun statut de droit civil lui permettant d'écrire un testament au premier degré. Les lois Junia et Cornelia faisaient ainsi passer des personnes de part et d'autre de frontières conceptuellement rigides. On devait alors se faire une représentation imaginaire de leur nouveau passé dans des réseaux de relations juridiques. Mais la possibilité de ces transpositions et acte d'imagination reposait sur la capacité de la citoyenneté, du droit civil et de l'État romain à être affecté par l'activité de transgression de la fiction. En conclusion, l'histoire de la citoyenneté dans l'Empire romain reste à écrire. Encore aujourd'hui, le simple fait de son extension universelle défie l'explication. Nous savons bien que les privilèges de la citoyenneté furent progressivement supprimés au cours des deux premiers siècles de notre ère. L'indicateur le plus significatif de ce changement étant l'exposition des citoyens des classes inférieures à des remèdes à la loi progressivement plus sauvages et violents. Mais il reste que l'échelle de cet acte, l'incorporation simultanée d'un conglomérat aussi vaste de nations, ne laisse pas de surprendre que nous l'envisagions simplement à la lumière de l'hétérogénéité ethnique, culturelle et linguistique des résidents de l'Empire, et que nous le mettions en comparaison avec les politiques de citoyenneté pratiquées dans d'autres empires anciens et modernes. Je soutiens que le droit romain joua un rôle paradoxal dans cette histoire, conçu à l'interne comme un ensemble de normes régulant les affaires des citoyens, le droit civil semblerait être un outil qui ne pouvait que séparer les citoyens et les étrangers, sans jamais les unir. Mais en fait, bien que sans jamais se départir de cet engagement envers le privilège de citoyen en pratique, le droit romain en vint à inclure une part toujours grandissante de la population. Ceci se produisent à différents moments pour différentes raisons au sein des communautés de citoyens éloignés du prêteur, auprès des étrangers cherchant le prestige et le pouvoir de cour de justice romaine ou dans la municipalité d'Espagne en cours de romanisation. En fin de compte, cette interprétation continuelle d'étrangers comme citoyens naturalisa la vérité de cette fiction, est un nouveau paysage politique et culturel naquis de cette révolution. Cela se produit presque en dépit de la conscience qu'avaient les juristes romains que l'opération des fictions juridiques demandait précisément que le faux fût considéré comme vrai. Et le juriste romain n'entretenait pas davantage d'illusions sur un pouvoir de langage juridique à changer le monde, qui pour ainsi dire serait venu dans au-delà de lui-même. Que ce fût dans quelque monde des idées plus élevées, ontologiquement plus stables, ou de la nature elle-même. Comme Gaius fut amené à l'écrire à propos de l'invention d'un usufruit de l'argent et du Senatus Consult subséquent établissant des réglementations pour une telle situation, le Senatus Consultum ne fut pas cause qu'il pût y avoir à strictement parler usufruit de l'argent, car la raison naturelle ne pouvait être altérée sous l'autorité du Sénat, mais ce remède ayant été introduit, un quasi-usufruit fut établi. Le pouvoir de la loi sur la réalité sociale était un sujet différent. Là, selon le mot d'Ulpien, res judicata pro veritate accipitur, les décisions légales sont acceptées en lieu et place de la vérité. Par cela, il ne sous-entendait pas que les décisions légales fussent nécessairement fausses ou qu'elles fussent elles-mêmes fondées sur une fausseté. Mais il est notable que cet obiter dictum ait émergé pour expliquer l'implication des institutions juridiques dans le changement du statut juridique des personnes. Nous devons accepter comme né libre quelqu'un au sujet duquel un jugement a été rendu en ce sens, même s'il est né affranchi, car les décisions légales sont acceptées en lieu et la place de la vérité. Le fossé qu'observe ici Ulpien entre les faits sociaux et les faits juridiques trouve encore relais important dans le fossé qui sépare le langage de la loi et les réalités sociales qu'elle était appelée à réguler. C'est ce fossé que la fiction et les substitutions venaient combler et sur lequel des mots comme « quasi » et « quodam modo » attirent l'attention avec insistance. Comment théoriser cette fracture en tant que problème de philosophie juridique était un sujet de dispute. Pour chaque juriste comme Ulpien qui insistait sur le fait que de nouvelles situations pouvaient toujours, sous le monde, être prises en compte dans le respect de la lettre de la législation, il y en avait d'autres, comme Celsius, qui insistait sur le fait que connaître les lois consistait à en respecter non la lettre, mais l'esprit et la force. Potestas legis, l'esprit et la tendance d'une loi, est également le terme utilisé par Paul pour expliquer quelle part d'une loi écrite était préservée ou respectée par le prêteur quand il en étendait l'usage à des situations qui l'on n'avait pas imaginées volontairement ou par inadvertance. Cela dit, l'extraction d'un principe juridique du langage statutaire et son application à des situations nouvelles doit nécessairement être réifiée dans le langage et cet acte crée des faits légaux latinisés. Là où auparavant il n'y en avait pas. La question de savoir si la loi, en tant que système de langage, avait pouvoir de faire des faits sociaux, des faits juridiques, est traitée explicitement par Gaius dans un passage consacré non par la fiction, à la fiction, mais au vol. Passage 12. Une loi établissait que si quelqu'un refusait d'autoriser que l'on fouilla sa propriété pour y rechercher des objets volés, il se rendait passible d'une accusation de vol en flagrant délit. Être simplement pris avec des objets volés rendait quelqu'un susceptible d'être accusé d'un vol dans des grès moindres. Ceci poussa certains juristes à demander si le vol était constitué en flagrant en flagrant délit par la loi ou par la nature. Ce qui revient à se demander si le vol en flagrant délit ou une forme de vol particulière, ou si n'importe quel vol pouvait non seulement être qualifié comme tel, mais en fait transformé en vol en flagrant délit par le biais de langage statutaire. Gaius dénonçait la question. Mais il est plus exact de ne définir le vol que par sa nature, car la loi ne peut pas plus rendre flagrant un vol qui ne l'est pas que déclarer voleur un homme qui n'a commis aucun vol, adultère ou homicide, qui n'aurait commis ni adultère ni meurtre. Tout ce que la loi peut faire, c'est de punir de la peine afférente au vol, à l'adultère ou à l'homicide, l'individu qui n'aurait commis aucune de ces infractions. Elle pouvait aussi faire exister les étrangers dans la loi et dans le monde que la loi régissait, exactement comme s'ils étaient citoyens, même s'ils ne l'étaient pas en réalité. Merci pour votre attention.